Radio Classique, les spécialistes.
7h40 sur Radio Classique. Depuis le début de cette semaine, on vous parle de la première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron. 12 mois après sa victoire à la présidentielle. Gros plan ce matin sur son bilan à l'international. L'Élysée face à l'Ukraine, la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe. Bonjour Christian Macarian.
Bonjour Renaud.
Christian, notre spécialiste des questions diplomatiques sur notre antenne. Macron et sa politique étrangère. Quelle est pour vous l'image de ces 12 derniers mois concernant l'international et Emmanuel Macron?
Écoutez, l'image la plus forte, à mon humble avis, c'est une image assez récente d'il y a 2 ou 3 semaines, celle de Macron en Chine, au début du mois d'avril. Macron a sorti le grand jeu planétaire avec une offensive diplomatique dont on va reparler peut-être tout à l'heure, parce que c'est une offensive, à vrai dire, assez risquée et assez peu comprise par les partenaires européens de Macron. Mais incontestablement, là, Macron s'est installé au stade véritablement international.
Alors, on va revenir évidemment sur cette visite dans quelques instants en Chine, mais les 12 derniers mois sont marqués évidemment par cette guerre en Ukraine. Comment qualifier aujourd'hui les relations du président français avec notamment Volodymyr Zelensky? Parce que ça a été compliqué au départ.
Alors, avec Zelensky, ça a été compliqué, mais ça s'est très bien rabiboché. Les AMX-10RC, les chars français, arrivent sur place. La France a notoirement accru son soutien militaire à l'Ukraine. Du reste, dans une interview au mois de février dernier, Volodymyr Zelensky déclarait que Macron a changé. Et depuis, Macron travaille très étroitement en collaboration avec Zelensky. Par exemple, on vient de parler de la Chine. Au retour de son voyage à Pékin, Macron a informé Zelensky qu'il avait effectué une démarche en faveur de l'Ukraine pour que Xi Jinping finisse par appeler
ce qui s'est produit.
Ouais. Conversation de près d'une heure, dont il ne faut pas attendre, à mon avis, des miracles, mais qui marque tout de même, c'est ce qu'on appelle de la diplomatie, une avancée.
Mais ça veut dire, avec ce coup de fil entre la Chine et l'Ukraine, que Emmanuel Macron arrive peut-être à influencer les plus grands de ce monde ?
Ça, je pense qu'il faut encore attendre pour en être certain. Il y a encore beaucoup loin de la coupe aux lèvres, hein, franchement, pour faire bouger Xi Jinping. Et puis Xi Jinping est un personnage extrêmement malin, extrêmement sournois aussi. Il peut donner l'impression d'ouvrir les vannes. On est loin de la dispute Mao-Staline que j'évoquais l'autre jour. Les relations entre la Chine et la Russie sont excellentes et l'amitié entre ces deux pays a été proclamé, je cite, sans limite. Oui. Néanmoins, les calculs chinois plus la guerre dure plus le calcul chinois divergent des intérêts russes. Et là, j'ai l'impression que Xi Jinping joue un peu sur les deux tableaux.
Vous parliez de la Russie, justement, les relations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. On a longtemps reproché au président français d'appeler également le maître du Kremlin. Les derniers coups de fil remontent à septembre dernier.
Oui, ça fait des mois et des mois. Tout à fait, que les deux hommes ne se sont pas parlé. Du reste, le dialogue entre les deux a posé un énorme problème. Vladimir Poutine, par exemple, a vertement reproché au président français d'avoir divulgué le contenu de leur conversation, puisqu'on a tous pu voir à la télévision, et entendre surtout, le dialogue et les mots employés par Macron à l'égard de Poutine. Et ça, Poutine a considéré que c'était une véritable trahison. De toute façon, il n'y a pas de regret à avoir. Parler avec Poutine ne sert à rien. Ouais. C'est pas moi qui le dis. C'est un président de la République qui a précédé Emmanuel Macron, qui s'appelle François Hollande. Et François Hollande avait mis en garde Macron sur les mensonges répétés de Poutine.
On revient sur le voyage d'Emmanuel Macron en Chine il y a quelques semaines. Bon, évidemment, il y a cette image entre les deux présidents tout sourire, mais La volonté d'Emmanuel Macron de voir la Chine s'impliquer davantage et peut-être même de jouer un rôle de médiateur, c'était le premier message d'Emmanuel Macron à Pékin.
Oui, mais c'est un message qui a deux portées. Fondamentalement, Macron cherche un positionnement pour la France, un positionnement diplomatique. Nous ne pouvons pas, estime le président français, être dans le suivisme par rapport aux Américains purs et simples. Nous n'avons pas la politique du Royaume-Uni. Nous n'avons pas non plus la position entièrement axée sur les intérêts économiques de l'Allemagne. Il faut trouver un positionnement diplomatique pour la France. Et ce positionnement, c'est la différenciation. Je cite Macron, « La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain ou à une surréaction chinoise. » Pour Macron, l'autonomie stratégique de l'Europe et l'Europe en tant que troisième pôle entre les régimes illibéraux et la démocratie de type américain, c'est la voie d'avenir. Donc Macron ne parle pas seulement en tant que Français, il parle aussi en tant qu'Européen. Pour lui, dialoguer avec la Chine, c'est une méthode pour prendre aussi le leadership de l'Europe sous l'étiquette tricolore de la France.
Mais en parlant, j'allais dire, d'équidistance entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, Christian, comment ça a été d'ailleurs interprété? On sait que ça a été assez mal interprété en Europe. Comment ça a été interprété du côté de Joe Biden et des États-Unis? Les liens entre Macron et Biden étaient plutôt bons, sont plutôt bons?
Ils sont très bons. On a assisté lors du dernier voyage officiel qui a eu lieu à la fin de l'année 2022 à de grands rapprochements, des embrassades. Il n'y a pas de projet franco-américain, il n'y a pas de grande idée qui soit sur les rails. Mais il y a la confirmation d'un partenariat stratégique dans lequel la France joue un rôle important quand elle se situe dans la roue des États-Unis. Donc, il ne faut pas non plus qu'elle se différencie trop. Regardez le cas de l'Ukraine, c'est très spécifique. La France joue sa propre partition, ouais. Mais elle est un allié indéfectible. Non, sur la Chine, Macron caresse le vieux rêve gaullien, c'est-à-dire, il faut rappeler que le général de Gaulle a été le premier chef d'État occidental à reconnaître la République populaire de Chine dès 1964. C'était un trait de génie diplomatique à l'époque. Macron cherche un coup de ce type-là. Pour l'instant, on en est encore loin.
Christian-Emmanuel Macron, l'Européen, comment est-il perçu justement par les autres dirigeants de l'Union, lui qui essaie de se montrer comme, j'allais dire, le leader de cette construction européenne?
Eh bien, il voudrait bien, effectivement, mais Emmanuel Macron propose de mettre en place une convention pour réviser les traités européens qui sont effectivement orientés vers l'économie, et Macron aimerait qu'ils soient davantage orientés vers les droits sociaux, l'environnement, des questions un peu plus modernes, un peu plus dans l'air du temps. Pour cela, il lui faut l'aval des autres nations. Or, 13 pays dans l'Union européenne refuse catégoriquement de réviser les traités. Donc Macron est un peu en panne sur ce sujet, même s'il fait, il faut reconnaître, de très beaux discours. Il a une autre idée. Il souhaite la création d'une communauté politique européenne, c'est-à-dire une sorte de nouvel espace de coopération extra-européen qui dépasse les frontières de l'Union et qui incorpore, par exemple, le Royaume-Uni. Cette idée, elle est intéressante. Elle permettrait, par exemple, de se rapprocher de pays qu'on ne peut pas intégrer dans l'Union, comme la Géorgie, et on pense immanquablement un peu aussi à l'Ukraine, même si l'Ukraine a été décrétée comme devant rejoindre l'Union européenne, ce n'est pas pour demain. Donc cette idée de Macron est ambitieuse, mais elle suppose une action. Aujourd'hui même, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, est dans le Caucase, en Azerbaïdjan, en Arménie et en Géorgie. Là, c'est un terrain vraiment d'études très concret pour observer l'avancée des idées d'Emmanuel Macron.
Il nous reste quelques secondes, malheureusement, mais l'avenir d'Emmanuel Macron après 2027, pour vous, ça sera plutôt à l'étranger qu'en France?
Moi, je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est la chose suivante. Il y réfléchit beaucoup, il y travaille énormément, et il a nommé une petite équipe pour préparer la suite. Donc la suite de Macron, beaucoup la situe dans un comeback après les 5 années du mandat présidentiel suivant, puisqu'il n'a pas le droit de se représenter, alors que on ferait mieux de regarder du côté international. Macron a des ambitions planétaires. Va-t-il les atteindre ? nous allons pouvoir l'observer.
Merci Christian Macarian, le monsieur international de Radio Classique, d'avoir été ce matin dans les spécialistes. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Un anniversaire aujourd'hui, celui d'un guide que vous avez forcément emporté avec vous lorsqu'il s'agit de voyager. Vous avez une petite idée? Cherchez bien réponse dans une poignée de secondes.